Vous êtes avec Raphaël Duchemin pour La France Bouge sur Europe 1 et il est temps de découvrir la solution du jour trouvée par Maud Descamps.
Comment bien vieillir chez soi? C'est vrai que c'est une question récurrente hein, chez les seniors, Maud. Aujourd'hui, 90% des plus de 80 ans vivent chez eux. C'est pas toujours facile d'ailleurs pour les proches d'être rassurés quand on sait qu'un de nos parents est seul à la maison. Mais il y a une solution, elle s'appelle Télégraphique.
Et oui, Télégraphique, c'est une entreprise française qui a été créée en 2013 par vous, hein, Carole Zissagara. Pardon. Bonjour.
Bonjour.
Vous proposez donc concrètement des capteurs et un système d'alarme qui permettent de détecter les chutes chez les personnes âgées. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la téléassistance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots comment ça fonctionne?
Alors effectivement, nous proposons des solutions connectées pour le bien vieillir, que ce soit à domicile, dans des appartements ou des maisons, ou bien en résidence pour seniors et en maison de retraite. Et nous permettons finalement aux personnes âgées de rester plus longtemps en autonomie, plus longtemps en sécurité. Et notre métier, c'est d'informer les familles ou les personnels soignants s'il se passe quelque chose. À domicile ou en résidence, des capteurs sont installés dans l'habitation, dans les zones stratégiques du logement, c'est-à-dire la chambre, la zone de repas, la zone de vie, la zone d'entrée. Et grâce aux données des capteurs et grâce à nos algorithmes d'intelligence artificielle, nous sommes capables, à distance, de savoir si la personne va bien. Et puis, nous sommes capables, s'il se passe quelque chose, d'alerter. Donc, ça peut être une chute, ça peut être un malaise, ça peut être quelqu'un qui a du mal à se lever ou bien même quelqu'un qui se dégrade depuis quelques jours, qui se met à se lever 5 ou 6 fois par nuit.
Et c'est une solution qu'on achète ou ça fonctionne par abonnement? Comment on la consomme, ce programme?
Alors, les familles peuvent acheter la solution. Sur notre site internet autonomie.com. Nous opérons les solutions avec des grands partenaires nationaux comme Securitas Téléassistance. Si la personne vit en résidence senior ou en maison de retraite, là c'est l'établissement qui s'est chargé de faire installer les systèmes.
Vous parliez des capteurs, qu'est-ce qu'ils mesurent ces capteurs par exemple?
Alors, en maison de retraite, nous sommes sur des personnes avec des troubles cognitifs, très en perte d'autonomie. Nous sommes sur de la détection de chutes instantanées. Ce sont des systèmes de prise d'image. En logement ou en résidence senior, là, les personnes sont beaucoup plus autonomes et elles souhaitent vivre comme d'habitude, sans que l'on rentre dans leur intimité. Et ce sont des capteurs du même type que ce que vous avez pour les systèmes d'alarme. Ce sont des capteurs de mouvement. Donc, chaque fois que la personne passe devant un capteur, on a l'information qu'il y a eu une activité.
Jean-Christophe ?
Donc, moi, je voudrais le faire pour ma mère ou pour mon père. Ça coûte combien ? Enfin, pour la maison, sa maison hein.
Alors, à domicile, ça vous reviendra 27 euros par mois, tout compris. Un installateur va venir dans l'habitation positionner les capteurs. Et ensuite, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le système sera en fonctionnement.
Il y a une obligation de durée, d'abonnement avec ça ou c'est... Comment ça marche?
Alors, en téléassistance, il y a une jurisprudence, des usages. On sait que les personnes sont fragiles, qu'elles peuvent du jour au lendemain partir potentiellement en maison de retraite. Donc, il n'y a pas d'engagement de durée. Et dès qu'il y a un changement de vie, on peut arrêter son abonnement.
Maud ?
Alors, vous êtes sur un créneau très particulier, c'est-à-dire que vous devez entrer chez les gens, vous installer des capteurs chez eux. Comment c'est perçu? Comment c'est reçu? Parce que c'est assez intrusif, finalement.
Il y a vraiment, avant l'installation, un temps d'échange au sein de la famille. C'est une décision familiale, souvent. Par contre, une fois que la décision est prise et que l'installation est faite, nos enquêtes, on mène beaucoup d'enquêtes auprès des familles et des usagers eux-mêmes, montrent que les capteurs sont oubliés, de la même façon que vous oubliez vos capteurs d'alarme chez vous. Voilà, les personnes vivent comme d'habitude. Et elles se disent rassurées, dans la majorité des cas.
Mais toutes ces données que vous compilez, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous les revendez ensuite? Est-ce qu'elles sont détruites? Où est-ce qu'elles vont, ces données?
Alors, chez Télégraphique, il faut savoir qu'on est une entreprise à impact, on est une entreprise éthique, et nous nous engageons à conserver les données uniquement à des fins de rendre les services. Donc, on n'ira pas vendre les données. Et puis, plus globalement, notre gouvernance, nos actionnaires sont des actionnaires impact. C'est quelque chose vraiment qui nous anime au quotidien.
Cette idée de créer cette solution, elle est venue comment? C'est d'une expérience personnelle ou comment vous en êtes arrivé à imaginer ces capteurs?
Alors auparavant, j'ai passé 10 années dans l'industrie automobile et puis j'avais vraiment le souhait d'entreprendre et j'ai souhaité me mettre dans des secteurs porteurs, d'où l'Internet des objets, amené à révolutionner nos vies. Et puis 2013, c'était la période du lancement de la filière industrielle Silver Economy en France par les ministres Delaunay et Montebourg. Et donc, j'ai choisi de mettre à disposition des technologies d'Internet des objets dans le domaine du vieillissement, dans un contexte où l'on sait que la part des plus de 80 ans est en train de doubler dans la population, où l'on sait qu'il va falloir beaucoup de moyens humains pour aider les gens à domicile ou en établissement et que ces moyens ne seront pas suffisants.
Alors justement, vous parlez d'aider les gens. Combien de personnes est-ce que vous avez équipées de ces systèmes aujourd'hui chez Télégraphic ?
Alors aujourd'hui, ce sont plus de 3500 personnes qui ont été équipées et nous avons actuellement 21 établissements EHPAD, maisons de retraite médicalisées équipées, plus deux établissements qui font de l'EHPAD à domicile. C'est un nouveau concept.
Et vous avez des retours, des premiers retours, des chutes qui ont été évitées, des dangers qui ont été évités ?
Tout à fait. On a des retours positifs tous les mois. Un mois, c'est quelqu'un qui a fait un AVC et qui a pu être hospitalisé grâce à nous. Un autre mois, c'est une famille qui nous dit grâce au système, on a gagné 18 mois au domicile et elle a pu rester plus longtemps chez elle. Donc on recueille ça, on a des synthèses de tous ces retours positifs et puis c'est ce qui nous anime au quotidien quand on se lève le matin.
Maude.
Vous avez souligné une problématique importante, c'est le vieillissement de la population française. Est-ce que Télégraphic a pour vocation à remplacer, à pallier le manque de personnel soignant, de toutes ces aides à domicile? On sait qu'aujourd'hui, on manque beaucoup de main-d'œuvre dans ce domaine-là.
Alors, les soignants et les personnels de proximité sont vraiment au cœur du dispositif. Ce sont eux qui sont vraiment auprès des personnes qui vieillissent. Et nous, nous venons en surcouche, par-dessus. Notre rôle, c'est finalement de leur apporter l'information la plus pertinente pour qu'ils accompagnent au mieux les personnes qui vieillissent. Ça peut être de signaler que quelqu'un a du mal à sortir de chez soi, à peut-être faire ses repas et qu'il va falloir mettre en place un portage de repas ou bien pour quelqu'un qui aurait du mal à se lever le matin, une aide au lever. Donc on est plus là pour apporter une valeur ajoutée par-dessus les moyens humains.
C'est la solution, ça s'appelle Télégraphic avec un K, je le précisais tout à l'heure. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui sur Europe 1 dans la France qui bouge.
Il est 12h59. Europe
1. Et vous restez avec nous, on va s'intéresser d'ici quelques minutes au véganisme. C'est la journée mondiale aujourd'hui et vous allez voir que c'est plus qu'une tendance en France. A tout de suite.
Europe 1, 12h14. La France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue sur Europe 1. Si vous nous rejoignez à l'instant, ce vendredi 1er novembre est aussi, le saviez-vous, la journée mondiale du véganisme. Le mouvement existe depuis 75 ans maintenant et ceux qui y souscrivent ne consomment aucun produit animal et ça va bien au-delà de ce qui se passe d'ailleurs dans notre assiette. Être végane, c'est aussi ne pas mettre de fourrure, ne pas se servir de produits testés sur des animaux. Et vous allez voir que la gamme est très étendue. Bonjour Olivier Dufy.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes l'un des fondateurs de la Vegan Place. C'est une marketplace, une plateforme de vente du vegan. C'est assez récent ce changement de vie, je crois, puisque c'est en 2014 que vous avez commencé vraiment à vous intéresser au véganisme.
Tout à fait, oui.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
C'est une histoire de rencontre, comme souvent, une aventure humaine, comme on les aime. J'ai rencontré mon futur associé Tristan. Un des futurs associés, en tout cas, dans un groupe de communication à qui j'avais vendu mon agence. Voilà. Et on a commencé à discuter de communication de clients, parce qu'on était quand même payé pour ça. Et puis, très, très vite, on a parlé d'autres sujets de société, de vision, de choses qui comptaient pour nous. Et il a commencé à me faire découvrir le véganisme. Alors, j'étais déjà un peu prêt, puisque j'avais une sensibilité qui montait en moi depuis quelques années sur les sujets de l'environnement, du développement durable. Et il m'a plongé, il m'a mis le nez dans l'information, dans tout ce qu'il fallait savoir pour passer ce pas et prendre conscience de la façon dont les choses se passaient réellement.
Oui, puis vous vous apercevez très vite finalement que l'offre quand on est vegan est assez réduite et qu'il faut véritablement se mettre à chercher pour trouver.
Exactement, on passe de magasin physique en magasin en ligne avec des ruptures de stock, des produits qui n'existent pas. Donc c'était vraiment ça l'idée phare que Laetitia, la troisième associée de l'aventure a eu, c'est de créer un endroit où tout est rassemblé, un site internet, tout ce qui existe pour les véganes, pour les végétariens aussi, pour les flexitariens, pour tous les gens qui sont allergiques, et ils sont nombreux, et de plus en plus nombreux, et puis pour des curieux, peut-être comme vous, ici autour de la table, qui se disent, tiens, je commence à lire, à entendre, à voir des choses, ça serait peut-être pas mal que je commence à consommer autrement, donc découvrons. Et cette marketplace est vraiment là pour ça aussi.
Alors justement, Maud, il y a combien de véganes en France ?
Alors, ils ne sont pas si nombreux que ça quand même. Il y a une étude qui a été publiée assez récemment par Harris Interactive. En France, il y aurait 0,5% de personnes véganes, vraiment véganes à 100%, ça fait 340 000 personnes à peu près, et environ 3 à 4% de la population française qui serait végétarienne.
Et le véganisme, c'est quelque chose qui est en expansion ?
Ah oui, c'est un marché qui est en pleine expansion. Hein. Les ventes des produits, alors végétariens et véganes, hein, parce que les études rassemblent les deux, l'an dernier, le chiffre d'affaires a grimpé de 24%. Mmh. Donc c'est évidemment une économie en plein boom. 380 millions d'euros dans les grandes et moyennes surfaces, hein, pour ce type de produits. C'est aussi ce que génère, à titre de comparaison, le marché sans gluten. En revanche, on est bien loin du marché du bio qui est 10 fois plus générateur d'argent.
Mmh. Mmh. Olivier Dufy, ça vous a pris 3 ans à vous de mettre ce projet finalement sur les rails. Ça peut paraître long, mais il y avait beaucoup de choses à aller chercher et rassembler.
Oui, c'est une grosse machine, même si on est encore des bébés à l'âge d'Internet. Mais effectivement, on a aujourd'hui 12 000 produits en référence, dont plus de 6 000 qui sont déjà en ligne. Et
oui,
6 000...
alors qu'au départ, je crois que c'était 1 500, donc ça a bien grandi.
Donc chaque jour, chaque semaine, de nouveaux marchands arrivent et le catalogue de produits s'élargit. On a 650 catégories différentes. Depuis l'alimentation, la cosmétique, la mode, des produits pour la maison, des produits pour les animaux.
Oui, je tiens à signaler que vous nous avez d'ailleurs amené des fromages.
Hein. Oui.
On commence à s'en rendre compte. On a un Beyond Burger, c'est un faux burger, c'est ça ?
Exactement, c'est de la simili-viande en fait, qui est sans OGM, sans soja, sans gluten, qui contient 20 grammes de protéines pour 110 grammes de viande, donc de steak. Donc une proposition extrêmement intéressante face aux steaks hachés habituels et dont on connaît les impacts environnementaux.
Et puis des cosmétiques, le rouge français qu'on avait reçu d'ailleurs ici même sur Europe 1 dans la France qui bouge. Vous avez grandi, vous l'avez dit, 12 000 produits qui sont en cours de référencement. Combien de personnes qui travaillent aujourd'hui avec vous ?
Alors on est 5 aujourd'hui, les 3 associés fondateurs et puis quelqu'un qui s'occupe d'intégration et un community manager à mi-temps, on va dire, puisque aujourd'hui on fonctionne... en fonds propres depuis le démarrage de l'aventure, c'est-à-dire depuis 3 ans.
Donc vous essayez de lever des fonds en ce moment.
Clairement, on est en rencontre d'investisseurs en ce moment. Je ne sais pas si on parle de chiffres.
Vous pouvez,
mais
oui.
L'idée, c'est de lever entre 300 et 500 000 euros pour le commencement, pour cette première année. On a besoin de créer encore plus de trafic, parce qu'Internet, on dit que c'est gratuit, mais ce n'est pas gratuit. Pour être visible sur Internet, il faut de l'argent pour pouvoir mettre en place des campagnes de trafic et d'acquisition. Voilà. Et puis comme c'est assez mécanique, on a un taux de transformation sans rentrer trop dans la technique, mais qui est d'environ 2%, c'est-à-dire les gens qui viennent, il y a 2% qui achètent, qui est un excellent taux à l'échelle d'Internet. Donc voilà, il suffit, je le disais tout à l'heure, de mettre un petit peu d'essence dans la fusée pour qu'elle décolle encore plus haut.
Que dit notre coach ?
Oui, moi je suis plutôt dans les 96% restants, si je puis dire. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire, si je puis dire, et à tous ceux qui nous écoutent, sur pourquoi ça vous a tenu à cœur et c'est quoi les dangers, c'est quoi les problèmes, pourquoi on ne peut pas continuer comme ça.
Il y a 3 raisons fondamentales. Une dont tout le monde entend parler, c'est l'environnement. Puisqu'il faut savoir que l'industrie du bétail est la première source d'émissions de gaz à effet de serre, bien devant tous les transports confondus. C'est à peu près 15%. Donc ça, c'est quelque chose de non négligeable. Pour le bien-être des animaux, 60 milliards qui sont tués pour notre propre consommation chaque année, sans compter les poissons. On sait aussi que prendre la ressource des océans, qui est un puits de carbone important, appauvrit les océans et donc appauvrit ce puits de carbone. Et Dieu sait qu'on a besoin de ces puits de carbone en ce moment. Et puis le troisième impact, c'est sur notre santé, puisque de plus en plus d'études scientifiques montrent que manger de la substance animale est mauvais pour notre santé, est mauvais pour notre corps. Je vous invite à voir The Game Changers qui est en ce moment sur Netflix et qui montre ça de façon extrêmement intéressante.
Vous avez prévu, je crois, de vous développer. Il y a des marketplaces équivalentes dans d'autres pays parce que vous ambitionnez d'aller en Allemagne et en Angleterre, je crois.
Oui, tout à fait. Alors, il existe à date 2 marketplaces ailleurs. Il y en a une aux États-Unis et une qui vient de se lancer en Angleterre, mais qui a pris un peu de retard et qui n'a pas un catalogue aussi large que le nôtre. Mais on est ravis que d'autres marketplaces voient le jour, hein, bien évidemment. Nous, dans la roadmap, il est prévu d'aller au Royaume-Uni. Alors, on va voir ce qui va se passer ces prochains jours.
Oui.
C'est un peu compliqué. Et l'Allemagne, qui est aussi un très gros marché. Et puis ensuite, l'Europe du Sud avec l'Espagne et l'Italie, où là, on frise les 7-8% vegan, végétarien. Je voulais juste rebondir sur vos chiffres tout à l'heure. C'est vrai que on ne cible pas que les véganes qui sont pour l'instant minoritaires et qui nous connaissent à peu près. On cible toutes les populations que je vous ai citées et qui sont vraiment intéressées par ce nouveau mode de consommation.
Et on va continuer à en parler ensemble dans quelques instants sur Europe 1.
Il est 13h17.
Europe 1.
Elle fabrique des sacs en faux cuir, 100% vegan, magnétique, s'impose dans le paysage français. A tout de suite sur Europe 1.
Jusqu'à 14h, c'est La France Bouge avec vous, Raphaël Duchemin. Et dans le dossier du jour, ce vendredi, on s'intéresse au véganisme. Il existe de nouvelles innovations et vos invités, Raphaël, en sont la preuve. D'ailleurs, si vous avez des questions à leur poser, hein, vous, auditeurs, eh bien, appelez-nous au 39-21, 50 centimes la minute.
On confond souvent, effectivement, on le disait tout à l'heure, végétarien, végétalien, vegan. Les trois modes de vie sont différents, mais c'est en étant végétarienne depuis 20 ans que notre invité est devenu vegan. Bonjour Fabienne Pomy.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous avez fondé Magnétique Paris. Alors Magnétique, je le précise, ça s'écrit M-A-G-N-E-T-H-I-K. Vous vous êtes aperçu, je crois, il y a 5 ans, qu'il était très difficile de trouver des sacs de belles factures à des prix relativement accessibles qui ne soient pas en peau.
Tout à fait. En fait, moi, j'ai été confrontée à un problème, c'est trouver des jolis sacs qui soient souples, qui soient d'une belle matière, parce que je suis très attachée à la matière, et qui soient dans mon ordre de prix. Alors, on pouvait toujours s'acheter un beau sac Stella McCartney, mais ce n'était pas vraiment le budget que je mettais généralement dans les sacs. Et en fait, le marché était très préempté par les anglo-saxons avec des modèles qui n'étaient pas les modèles que j'avais envie de porter.
Si vous citez Stella McCartney, ça n'est pas par hasard. Hein, c'est parce qu'elle est très engagée justement avec le mouvement PETA pour lutter contre l'utilisation des animaux, que ce soit le cuir ou la fourrure.
Oui, absolument.
Donc, vous avez commencé à chercher et vous avez commencé à trouver des matières qui pouvaient remplacer justement la peau.
Oui, alors j'ai commencé à chercher. Ça m'a pris pas mal de temps parce que moi, je ne suis pas du tout issue du milieu de la mode. Donc, j'ai un petit peu enquêté, j'ai fait des recherches et puis j'ai reçu beaucoup d'échantillons de beaucoup de matières. Et en fait, la matière sur laquelle je me suis arrêtée, c'est celle avec laquelle je travaille encore aujourd'hui, qui est une matière extrêmement souple, de très grande qualité, qui permet de reproduire visuellement et avec un toucher très, très doux le cuir.
Et cette matière, vous êtes allée la chercher au Japon?
Oui, en fait, c'est une matière qui est produite au Japon parce que les Japonais sont assez forts en innovation. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est une matière aussi qui évolue.
Ça veut dire qu'elle vieillit comme un cuir?
Non, alors oui, qui
quand
évolue.
Vous dites
non.
Évolue.
Alors non, elle ne vieillit pas comme un cuir. Le synthétique
ne
va jamais
pas
se patiner. Non, l'aspect ne change pas. Et elle a une extrême solidité parce que c'est une matière qui est utilisée en sellerie de bateau, en revêtement de voiture, dans le milieu médical. Elle a une grande solidité, ce qui permet de faire des sacs sans renfort, donc qui sont souples, comme vous pouvez le voir.
Effectivement. Oui.
Qui vivent et qui peuvent durer dans le temps, puisque j'ai un sac avec moi que je porte depuis 3 ans et que je ne traite pas toujours très très bien et qui est encore tel que, parce que l'idée, c'est aussi de rendre les choses perdurables. Et on est, moi, je refuse d'être dans la consommation, dans le consumérisme. Et puis, moi, je suis ravie quand un de mes sacs se retrouve sur un marché de seconde main, quoi. C'est-à-dire qu'il a vécu et revivra encore, quoi.
Vous avez, et ça c'est assez étonnant, vous êtes allé vérifier toutes les étapes de fabrication au Japon, pas de métaux, pas de phtalates, il faut que ça soit recyclé ou recyclable.
Alors, c'est une matière qui a un label. Un label qui s'appelle Green Guard, qui garantit qu'il n'y a pas de métaux lourds. Il n'y a pas de phtalates, il n'y a pas de bisphénol, il n'y a pas de pigments azoïques. Ce sont des pigments qui sont utilisés dans le tannage du cuir pour les rouges et les bruns et qui sont extrêmement cancérigènes. Bon, le phtalate, le bisphénol, tout le monde sait que c'est quand même extrêmement dangereux. Et le sac à main, c'est quand même quelque chose qu'on porte parfois près de la peau. Qu'on touche souvent. Donc, je pense qu'il est important aussi de le concevoir avec une matière qui soit sûre.
Et vous dites, les Japonais sont en train de travailler, de faire du faux cuir en résine végétale.
Ouais.
Là, on est encore à l'étape d'après, hein,
tout
si j'ose dire.
En fait,
on n'est pas capable, nous, de faire ça aujourd'hui?
Alors, en France, il y a certains producteurs de polyuréthane, mais c'est pas des matières, ce sont des matières qui vont être destinées plus à l'industrie automobile, plus un... je sais qu'il y en a qui font du revêtement de pluie aussi. mais pas qui puisse avoir ce rendu, en tout cas, et pouvoir servir à la conception d'un sac. Voilà.
Jean-Christophe, notre coach.
Oui, Fabienne, tout à l'heure, vous avez dit c'est la McCartney, c'est trop cher, etc. Donc là, parce que le Japon, ce n'est pas un pays bon marché. Donc si vous faites bien des choses, vous arrivez à faire des prix intéressants par rapport à la marque que vous avez citée tout à l'heure.
Moi, j'achète une matière qui est extrêmement chère. Ouais. Je dirais, je dis toujours, c'est un peu la Rolls-Royce du polyuréthane qui est...
Oui, mais alors le prix final pour le client et par rapport à des...
C'est un prix, le sac le plus cher est à 250 €. Mmh. Je préfère favoriser un modèle simple, simple, qui soit beau, mais sans trop de chichi, avec la matière, de toute façon, de fait, la matière est tellement belle que c'est pas la peine d'en mettre des tonnes, quoi. Donc, j'arrive à, effectivement, travailler avec un atelier français, parce que moi, je fais produire mes sacs en France.
Oui, alors, c'est ça la grosse difficulté, manifestement. Oui. C'est qu'il y a beaucoup de marques qui se développent. On a regardé, on a vraiment beaucoup cherché. Il y a très peu de marques qui arrivent à fabriquer en France. Oui. Pourquoi ?
Alors, qui arrivent ou qui veulent aussi fabriquer en France, parce que le coût
est quand même... Parce que ça a un impact sur le prix ?
C'est un impact sur le prix, c'est évident. De toute façon, on voit bien les taxes qu'on paye en France. Elles se répercutent forcément parce que l'atelier paye ses employés, il paye ses charges... Donc, c'est sûr que c'est un coût qui est supérieur, mais aussi parce que c'est un milieu qui est quand même pas hyper connecté, il faut dire ce qu'il y a. Donc, c'est quand même très difficile de trouver un atelier.
Vous en avez un, vous, à Paris, oui. Que vous avez trouvé.
Je garde
ça depuis longtemps, en plus.
Depuis 40 ans, tout à fait. C'est un atelier qui s'est transmis de mère en fille, qui travaille pour d'autres marques. Il ne travaille pas que pour moi. En tout cas, pour moi, il a accepté de jouer le jeu de la petite série et en fait, les sacs, vous pouvez voir, ils sont pas collés. Ils sont tous en ce qui s'appelle rembordés, c'est-à-dire qu'ils sont cousus. Et ça, c'est un savoir-faire quand même que tout le monde n'a pas.
Et en plus, je précise que vous doublez vos sacs en coton bio. C'est bien de le dire.
Tout à fait.
Maud, vous aviez une question.
Oui, on est en retard en France, justement, sur ces filières véganes de tannerie, de matières premières par rapport à, je pense, à la Grande-Bretagne, par exemple, où il y a beaucoup de véganes. Est-ce qu'on est moins développé, nous ?
Par rapport à la production des matériaux.
Des matières premières, oui, tout à fait.
Oui, je pense que de toute façon, il y a des pays qui sont porteurs. Il y a l'Italie, il y a...
Qui est pourtant un pays de tradition du cuir.
Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que depuis longtemps, ils font aussi des cuirs synthétiques qui sont assez qualitatifs, mais qui ne permettent pas, en tout cas, moi, l'ADN de mes sacs, c'est cette souplesse, c'est tout ça. Donc... voilà. Et puis le Japon, l'Allemagne aussi un petit peu. Mais en France, on a beaucoup de savoir-faire. Mais à mon sens, celui-là, non. Enfin, je ne pense pas. Je ne veux pas avec ces personnes. Mais...
Vous avez aujourd'hui 6 sacs différents, 6 collections différentes, c'est ça ?
Oui.
Avec des coloris différents aussi.
Oui, 6 modèles différents ou des coloris différents qui changent avec les saisons. On est plus dans des tons d'automne.
D'hiver, oui.
D'hiver. Après, l'été, enfin aussi, nous, sont... on joue aussi avec les couleurs que propose notre fournisseur parce qu'elles sont très belles. Donc l'été, on peut mettre du rose, on peut colorer et puis faire que la mode végane soit gaie.
Alors justement, la mode végane, vous avez trouvé d'autres initiatives véganes dans l'habillement, je crois, Maud.
Oui, tout à fait, dans l'habillement, je vais vous en citer deux. Il y a les sacs véganes de Pierre-Henri Bord, qui sont des sacs en faux cuir, daim et fourrure, qui sont très très beaux et qui respectent aussi donc un peu toutes les règles, en tout cas toutes les exigences du végane. Et puis un projet qui s'appelle Ngo Shoes. Là, ce sont des sneakers, donc des baskets en cuir de tannage végétal. Et là, il y a une campagne de financement participatif qui a été lancée justement pour soutenir le projet.
On reste ensemble et on continue à parler du véganisme aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h27. Europe 1.
Elle est née dans le cuir mais a opéré un changement et fabrique aujourd'hui des fourrures 100% vegan et made in France. La fondatrice de La Seine et Moi est avec nous dans un instant. A tout de suite.
Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du véganisme. Alors, à l'ère de la préservation de l'environnement, quelles sont les avancées françaises propres à ce mode de vie ? Eh bien, on en parle justement avec vous sur Twitter avec le hashtag Europe 1 et puis avec vos invités, surtout Raphaël Duchemin pour La France Bouge.
C'est une histoire assez étonnante que vous allez découvrir avec nous. Bonjour Lydia Baya.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de La Seine et Moi, La Seine comme le fleuve, on est bien d'accord. Une marque de fourrure 100% vegan, écolo et made in France. Et alors, Ce qui est étonnant dans votre parcours, c'est que votre famille, vos parents, ont une entreprise spécialisée dans le prêt-à-porter en cuir. Vous avez forcément baigné dedans depuis que vous êtes toute petite.
Exactement. J'ai baigné dans tout ce qui est pousserie. Donc, pas vraie fourrure, hein. Vraiment le cuir. Donc, c'est quelque chose qui me paraissait normal, entre guillemets, et naturel. Jusqu'au jour où j'ai eu un déclic.
Et ça, c'est en 2014, ce déclic.
Exactement. Il y a
Qu'est-ce
à peu près 7 ans. Donc, je ne me prédestinais pas à travailler dans la mode. J'ai un parcours atypique puisque j'étais étudiante en droit. Et ma meilleure amie, à l'époque, commence à discuter avec moi et à me dire, à me faire part de sa culpabilité à porter son manteau en vison hérité de sa grand-mère. Donc, une situation qui est assez courante pour beaucoup. De française. Et elle qui est donatrice en fait à WWF,
oui.
Exactement, donc le Fonds mondial pour la nature, elle m'a fait. Enfin, à ce moment-là, je me suis posé des questions et j'ai commencé du coup à m'informer par moi-même. J'ai visionné les célèbres vidéos de L214 et sur les abattoirs et les élevages de fourrures. Et là, ça a été un déclic automatique. Et un vrai électrochoc, et j'ai décidé de ne plus du tout en porter, de ne plus porter de vraie fourrure. Et je me suis mise à la recherche d'une alternative, et c'est comme ça qu'est née la Seine et moi.
Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'à ce moment-là, vous dirigiez le commerce en ligne pour l'enseigne de vos parents, et du coup, votre père va vous aider.
Exactement. Mon père m'a aidée, il m'a beaucoup soutenue. Et il a été aussi sensible que moi, en fait, je pense, à cette cause. Et il m'a aidée pendant 2 ans, enfin, qui continue à m'aider, mais pendant 2 ans pour trouver les matières. Et,
trouver les bons fournisseurs.
Exactement, et surtout le savoir-faire, les ateliers. Parce qu'il faut savoir que le travail que nous, on fait sur notre fourrure, fausse fourrure, vegan, c'est un vrai savoir-faire. Le travail, tout est fait à la main. Les techniques utilisées sont presque les mêmes que pour la vraie fourrure, en fait.
D'accord. Alors, ces fourrures, vous les avez apportées avec vous. Elles, ouais. Elles sont avec nous sur Europe1.fr, si vous les voyez. Effectivement, hein, on dirait des vraies fourrures. Je crois que vous êtes partie à un moment donné à Londres et à New York, qu'à chaque fois, vous portiez vos créations et que tout le monde s'est cassé le nez.
Exactement. En fait, j'avais fait 2 prototypes. Je ne pensais pas du tout à ce moment-là faire une marque. Je voulais juste en fait vraiment trouver une solution pour moi et avoir des manteaux très chauds et ne plus avoir à porter quelque chose, vous voyez, les manteaux que tout le monde a. Puis on est obligé de mettre 4 couches avec une écharpe supplémentaire. Et je pars avec mes 2 prototypes me balader à New York, tempête de neige. Tout le monde m'arrête dans la rue. Quand je rentre dans un magasin, tout le monde me demande « mais c'est quoi ? C'est quoi ?» Et les gens étaient très, très curieux. Je rentre à Paris. À Paris, on ne vous regarde pas spécialement. Personne ne vous pose de questions. Je pars à Londres 1 mois et demi après. Et là, rebelote, tout le monde me demande. Donc, sachant que c'est triste à dire, mais la France est un petit peu en retard sur certains sujets, il est vrai que j'ai tout de suite trouvé un public très, très large aux États-Unis et en Angleterre. Et où notamment la communauté végane est bien plus importante, hein, je parle surtout pour l'Angleterre. Mais au-delà du végane, c'est tout simplement le fait d'arrêter de porter de la vraie fourrure.
Oui, alors vous êtes passé dans Elle, vous avez gagné le prix PETA dont on parlait tout à l'heure. Vos manteaux, vos créations, elles sont faites en quoi ?
Alors, la matière qu'on utilise, c'est de l'acrylique et du modacrylique, donc des matières synthétiques, et on utilise uniquement 15% de polyester. Et c'est très important parce qu'en fait, les fausses fourrures que vous trouverez sur le marché, quand je dis le marché, c'est très large, hein. C'est aussi bien chez des très grandes enseignes que des choses, que des pièces à petit prix, utilisent des matières 100% polyester, donc qui ne sont pas très écologiques et qui ne tiennent pas très chaud et qui
alors
durent moins longtemps.
Alors que celles-ci tiennent aussi chaud
que la vraie fourrure et plus chaud qu'une fourrure de lapin.
Et alors, vos fourrures sont tissées. Pourquoi ?
Exactement. En fait, le travail, la technique, ce que nous, on utilise, c'est de la fourrure tissée. Et alors que ce que vous trouvez, comme je vous disais, sur le marché, c'est une fourrure tricotée qui, en fait, bouge dans le temps. Donc,
Donc voilà. Donc ça change pas mal de choses. Maud.
Oui, vous destinez à quel type de clientèle? Est-ce que c'est cher? Vous êtes dans quelle gamme exactement?
Alors, tout est made in France. Et qui plus est, made in Paris. Donc, ce travail et ce savoir-faire a un coût, c'est certain. En revanche, j'ai toujours voulu faire quelque chose de très abordable. Je voulais vraiment que tout le monde puisse, quand je dis tout le monde, en tout cas, mes amis, qu'elles puissent sortir et s'offrir ce manteau. Donc, nos prix sont entre 450 et 700 euros pièce, ce qui n'est pas du tout un prix exorbitant, étant donné que c'est des pièces qui devraient plutôt être aux alentours de 1500 euros. Donc, pour ça, j'ai travaillé dur pour réduire les coûts au maximum, baisser les marges. Et vous savez bien que dès que vous allez chez une enseigne un petit peu connue et tous ces magasins qu'on connaît tous, les manteaux en fausse fourrure sont à 500 euros. Donc, vous voyez, on est vraiment sur un prix très compétitif puisque les leurs sont fabriqués en Asie et on n'est pas du tout sur la même qualité.
Jean-Christophe, notre coach.
Alors, vous avez dit les Américains, les Anglais, ils voient tout de suite, ils sont très, très intéressés. Les Français, non. Alors moi, je suis Français et justement, je ne vois pas comment ils font les Anglo-Saxons pour voir d'un coup d'œil la différence. Et nous, on n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'on a, nous, de...
On n'est pas éduqués. On n'est pas éduqués.
Heureusement, les choses ont changé depuis, voilà, ça, c'était il y a 4 ans quand j'ai commencé. Dieu merci, maintenant, les Françaises sont de très bonnes clientes. Donc, non, on a beaucoup, beaucoup de clients à travers le monde et beaucoup de Parisiennes qui nous rendent visite au showroom à Paris. Mais
vous avez senti ce changement?
Ah oui. C'est incroyable, c'est-à-dire que quand j'ai commencé, je me souviens encore de ma première présentation en juin 2016, où j'avais des remarques en me disant « mais je ne comprends pas comment on peut avoir, comment on peut faire une fausse fourrure qui ressemble autant à de la vraie et comment on peut la vendre entre guillemets aussi cher alors qu'on n'est pas cher ». Donc le regard a vraiment changé maintenant.
Alors, il a changé, mais Maud,
il y a encore du boulot.
C'est vrai que le véganisme n'a pas forcément bonne presse.
Et non, il y a une étude qui a été justement publiée hier sur les Français et le véganisme. Et en effet, on sent que les Français ne sont pas encore tout à fait convertis. Seuls 6% des personnes qui ont été interrogées envisagent de devenir véganes. Et qu'est-ce qui les pousserait à sauter le pas? Eh bien, c'est d'abord donc la préservation de l'environnement. Deuxièmement, c'est la protection justement de la vie animale. Et troisièmement, c'est leur santé. Voilà, et bonne nouvelle quand même, hein, 65% des sondés connaissent la différence entre vegan, végétarien et végétalien.
On progresse. On reste ensemble sur Europe 1.
Il est 13h37.
Europe 1.
Et on vous attend. Vous pouvez venir nous poser toutes vos questions au 3921 ou sur Twitter, hashtag Europe 1. C'est la France qui bouge avec vous. Vous êtes les bienvenus. Europe 1.
Comme tous les jours de la semaine, vous retrouvez Raphaël Duchemin jusqu'à 14h avec La France Bouge sur Europe 1. Et en ce 1er novembre, on s'intéresse aux innovations dans le domaine du véganisme avec nos invités du jour, mais avec vous aussi sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou au 39-21, 50 centimes la minute.
Nous sommes avec Olivier Dufy, cofondateur de veganplace.com, la première marketplace du vegan. Fabienne Pommy, fondatrice de Magnetic, je le précise avec un K à la fin, marque de sac en faux cuir 100% vegan. Et Lydia Baya, fondatrice de La Seine et Moi, fausse fourrure 100% vegan, écolo et made in France. Notre coach, c'est Jean-Christophe Sibéras et Maud Descamps m'accompagne toute cette semaine dans La France qui bouge. C'est vrai qu'on se pose plein de questions finalement sur ce mouvement vegan et en cherchant, vous avez trouvé pas mal de choses. La première chose qui nous vient quand on pense vegan, c'est forcément l'assiette, Maud.
Oui, la gastronomie, et c'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont en termes de nourriture végane. Je vais vous citer deux, trois initiatives un peu sympas. Il y a les gourmandises de Sophie, par exemple, qui sont des bonbons véganes français. Il y a Funky Veggie, là c'est une box, ce sont des biscuits apéro 100% végane. Baou, là ce sont des barres de céréales véganes sans gluten et qui sont fabriquées à Annecy, donc c'est du made in France. Et puis une dernière, s'appelle Ondontella, ça c'est une start-up bordelaise qui a réussi à concevoir un saumon végétal à base d'algues. Donc vous voyez qu'on n'arrête pas les progrès et la recherche dans le domaine du véganisme.
On en connaît quelques-unes qui sont venues, qui sont passées par les micros de la France Bouge Academy l'année dernière notamment. On parlait tout à l'heure des produits, Olivier, qu'on peut fabriquer ici en France. Est-ce qu'il y en a qu'on ne peut pas, qu'on n'arrive pas pour l'instant en tout cas à fabriquer dans le véganisme?
Alors, moi, je serais moins à même de répondre à cette question parce que les spécialistes des produits, ce sont les marchands qu'on héberge chez nous. Nous, on a un rôle de faire émerger ces marchands.
Mais vous leur demandez, vous leur dites, vous n'avez pas l'équivalent en Made in France ?
Alors, nous, on leur demande d'abord avant tout d'être 100% vegan. Et ça, on le vérifie, contre-vérifie, parce que c'est le contrat de base que nous, on donne à nos clients et aux internautes. Après, la plupart de nos marchands sont tous engagés dans des démarches qui vont bien au-delà du véganisme. Le biologique, bien sûr, le commerce local, quand c'est possible, le commerce éthique, le commerce responsable, jusqu'à redonner à des associations caritatives. Donc, ils sont tous dans cet état d'esprit-là. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils viennent chercher chez nous, parce que, enfin, faut pas se leurrer, Amazon les a tous contactés, ou quasiment, je sais pas pour vous, mais oui, ils ont tous dit non. Et c'est vraiment pour des bonnes raisons, parce qu'on a ce contenu éditorial et cette bienveillance que l'on écrit dans sur nos réseaux sociaux, sur notre blog. Nous, on est là pour informer, pour ouvrir, pour démocratiser au maximum le mode de vie vegan, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc, on est dans cette ouverture-là. Donc, quand un marchand nous propose du local, du bio, du solidaire, bien évidemment, on applaudit dès demain.
Évidemment. Voilà. Fabienne, vous avez réussi à fabriquer ici, avec, on l'a dit, des matières qui viennent du Japon, mais vous êtes en train de travailler sur un autre produit, une matière végétale ?
Oui, en fait, c'est pas moi, hein, c'est notre fournisseur. Donc
oui, mais pour créer vos sacs.
Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, ce qui est aussi intéressant, je trouve aussi dans l'univers du véganisme et de la mode, c'est qu'on fait beaucoup appel. Enfin, on est très demandeur de tout ce qui est recherche et développement.
Et innovation.
Et qu'en fait, les matières, la nouvelle génération de matières, ce que disait Lydia, c'est beaucoup la recherche à base du végétal. Donc, effectivement, moi, le fournisseur avec qui je travaille a sorti, commercialisé, et c'est effectif et testé. Donc, c'est une matière qui est prête à être travaillée aujourd'hui. Et qui est à base de résine végétale, parce que la polymérisation se fait avec de la résine minérale aujourd'hui. Et cette recherche a fait qu'aujourd'hui, on peut introduire du plant-based, on dit en anglais, je ne trouve pas le nom en français, mais en tout cas, que voilà, petit à petit, le végétal va remplacer le minéral. Mais c'est toute une recherche, c'est de l'investissement aussi, c'est...
Oui, je vois que Lydia est d'accord avec vous. Hein. C'est vrai qu'on est toujours en recherche de nouvelles matières pour remplacer, justement.
Exactement. Et c'est vrai que nous, à notre niveau, c'est pas évident de mener à bien ces recherches, parce qu'il faut effectivement beaucoup d'argent. Et là, la chance qu'on a, c'est que tout ce qui est mouvement vegan, et notamment nous, avec la fausse fourrure qui est devenue très à la mode, beaucoup de budgets ont été débloqués et ça permet de trouver de nouvelles choses et bientôt de la fourrure synthétique à base de produits naturels également.
Maud ?
Alors, j'ai un sentiment, vous allez me dire si je me trompe ou pas, mais j'ai l'impression que l'acceptabilité du vegan en France, elle est beaucoup plus facile quand c'est de la cosmétique, quand c'est du vêtement, que de la gastronomie. C'est-à-dire qu'on va accepter de laisser tomber le cuir d'origine animale, la fourrure. En revanche, laisser tomber son steak, c'est un peu plus compliqué. C'est français, ça ?
Ouais, c'est très français, malheureusement. Enfin, alors on est comme ça, notre assiette, c'est quelque chose de très important. Le plus important dans la transformation, dans le passage à un autre type de consommation en ce qui concerne l'alimentation, c'est d'ouvrir les chakras des gens en leur faisant goûter. Moi, je me suis marié il y a un an, tout le buffet était vegan. Les gens ont adoré. Ils ont dit c'est génial, c'est super bon. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est montrer que l'alimentation vegan, c'est pas des légumes bouillis, de l'eau et de la tisane. Voilà. Moi, j'adore manger. Il faut garder le plaisir de manger. Sinon, on ne peut pas devenir végétalien, puisque ça concerne l'alimentation.
Oui.
Si on n'a pas de plaisir, ce n'est pas possible. Ça ne marche pas.
Jean-Christophe ?
Mais il y a une question que je me pose depuis le début de l'émission.
J'ose
pas la poser,
mais
parce
si,
que j'ai affaire
ça.
À des spécialistes. Mais le mot vegan, il y a végétaux et animaux dedans. Enfin, je suis un peu perdu dans le mot. Alors, il vient d'où ce mot ?
Oh ben, c'est une origine anglaise qui date des années 40,
ah.
De mémoire, hein, si je ne me trompe pas. Voilà, donc la source d'inspiration vient là, mais... après,
ça veut
quand
dire quoi en anglais ? Alors, il y a un équivalent en anglais ?
C'est la traduction de végétalien.
Végétalien.
En fait, okay. Le vegan a une approche globale de la condition animale, de la non-consommation d'ingrédients animaux, alors que le végétalien, c'est uniquement centré sur l'alimentation. Donc nous, on est vegan parce qu'on ne veut aucun ingrédient animal dans quoi que ce soit. Dans les vêtements, ma ceinture est vegan, mes chaussures sont vegan, ma crème que je mets sur le visage est vegan. Ce que j'utilise, les produits d'entretien
rien
à la maison
sont
vegan. Rien
n'aura été testé sur des animaux.
Exactement.
Rien ne.
Exactement.
Voilà, il n'y aura pas de. Ça ne sera pas ni du cuir, ni même des expériences.
Ouais.
Voilà.
On sait faire autrement, donc pourquoi continuer à faire comme ça ?
Maude ? Non, je voulais juste vous dire qu'il y a aussi aujourd'hui des voyages vegan. On voit que le secteur du tourisme vegan explose avec des croisières vegan, avec des surf camps, des stages de surf vegan également. J'ai vu que du côté de Perpignan, il y avait également un gîte qui proposait d'accueillir des séminaires d'entreprise vegan. Donc, on voit aussi qu'il y a un business touristique autour de ça.
Juste d'un mot, Fabienne, bientôt un magasin, c'est ce que vous espérez ?
Bah oui, c'est ce qu'on espère. Hein ? Alors moi, je suis une...
Parce que vous êtes en e-commerce pour l'instant.
On est en e-commerce, on développe... j'ai travaillé longtemps toute seule, pendant 3 ans. Et là, cette année, j'ai fait des très belles rencontres qui m'ont permis tout au long de ces années d'évoluer. Là, je me suis associée il y a quelques temps, donc j'ai aussi un associé qui me fait confiance. Et on travaille, aujourd'hui on est 3, enfin moi je suis encore à temps partiel, mais on est 3 à travailler sur Magnetic. Donc on développe beaucoup les points de vente. Et puis oui, on espère d'ici peut-être 1 an, une boutique. Quoi.
Lydia, vous êtes toute seule toujours, mais bientôt plus nombreux ?
Alors, je ne suis pas vraiment toute seule, c'est juste que j'externalise énormément,
oui.
Puisque vous imaginez bien que déjà travailler, ce qu'on disait avec le Made in France, ça a un coût.
Bien sûr.
Et donc voilà, donc non, on est une grosse équipe, mais c'est vrai que j'ai tendance à externaliser toujours à Paris,
oui.
Local, en fonction des spécialisations de chacun.
Merci à tous les trois d'être venus aujourd'hui nous parler véganisme sur Europe 1.
Il est 13h48.
Europe 1.
Restez avec nous, des générations d'enfants sont photographiées sur ces chevaux en bois, le carrousel Baïkoché et l'entreprise qui va bien. À tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Vous écoutez La France bouge avec Raphaël Duchemin et tout de suite retour en France avec l'entreprise qui va bien. Merci.
Eh oui, vous avez compris, cette entreprise, c'est Carrousel Baïkoché. Bonjour Francisque Bailly.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de cette entreprise qui est toujours familiale et qui a vu le jour en 1865. Vous êtes donc, si j'ai bien compté, la 7e génération à nous émerveiller avec vos manèges, les chevaux de bois, les carrosses de princesse. C'est chez vous qu'on les trouve. Racontez-moi comment démarre l'histoire. Je crois que c'est en Allemagne, au tout début, avec la tante de votre arrière-grand-père, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Donc nous, à la base, on est une famille foraine. Donc on exploitait, on va dire, des jeux forains dans les années 1850, 1860.
La loterie, notamment.
Voilà, la loterie de vaisselle, de ville en ville. Et puis, il y a eu le premier manège qui a vu le jour en Europe, qui est en Allemagne. Et donc, la tante de mon grand-père a eu la bonne idée d'aller voir ce qui se passait. Et elle a acquéri le premier manège qu'on a eu dans la famille, juste avant la guerre de 1870, parce qu'on a encore des traces. On a retrouvé des factures qui avaient des chevaux.
Un carrousel de Prusse, c'est ça ?
Voilà.
Avec des chevaux de bois.
Ouais, qui avait vu avant la guerre. Donc, on a eu des chevaux qui ont été bloqués pendant cette guerre. On a encore des documents. On n'a pas pu récupérer à cette période-là.
Alors, le manège va fonctionner, je crois, jusqu'en 1902. Puis, il est vendu au neveu, Francisque Cochet.
Voilà.
C'est l'une des filles, Irma, qui va épouser Ferdinand Bailly. Et c'est en 1957 que ça change de nom, finalement.
Voilà, on a gardé les deux noms parce que donc, ça vient, on va dire, de la famille Cochet. Et comme mon grand-père, on va dire, n'était pas forain, c'était une pièce un peu rapportée de ce monde-là.
Tant des choses qui arrivent.
Voilà, donc les gens ont toujours assimilé ces deux noms, hein, Bailly-Cochet, puis en plus que ça se marie bien. Donc voilà, c'est parti comme ça.
Alors, en 1979, ça tombe un peu en désuétude, le carrousel. On préfère les manèges avec les fusées, moderne. Tout ça, moderne. Mais votre père, Robert, en rachète un, en 1987.
Voilà, c'est ça. Donc, on a eu une forte demande de fêtes privées, c'est-à-dire pour les mariages, pour des lancements de choses de marketing, des choses comme ça pour des marques. Et on avait une forte demande à cette période-là. Donc, on a réacquis un deuxième manège, qui fait qu'après, moi, quand j'ai eu l'âge de le faire tourner, c'est moi qui a repris ce manège-là. Et donc, on est reparti parce qu'on est une des rares familles, je pense, en France, de forains à avoir gardé le même type de manège. Parce que c'est vrai qu'au fil des années, les modes se démodent. Et je pense qu'on est la seule famille à avoir gardé un carrousel tant de générations et à traverser toutes les guerres parce qu'il y a eu des moments forcément difficiles économiquement parce qu'on avait une concurrence.
Oui, ça a même été stoppé pendant un moment. Et puis, vous avez dû aller dans le Jura. C'est là que la fabrication a commencé en France.
Voilà.
Vous arrivez très jeune dans l'aventure. Vous avez 21 ans.
Voilà, j'étais à mon compte à l'intendant, mais j'ai commencé même à exploiter. J'avais 17-18 ans, je me rappelle encore que mon papa m'amenait le camion dans les villes et puis je me débrouillais tout seul. C'est vrai que dans ce monde-là, on commence très 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 jeune. C'est une formation de vie d'être forain parce qu'on ne va pas à l'école très longtemps. Malheureusement, on passe de ville en ville, on a du mal à étudier parce que d'école en école. Mais voilà, on est formé très très jeune à ce métier-là, puis on doit tout savoir faire. Donc on peut être serrurier, on peut être plombier, on doit être électricien, on doit tout savoir faire quand on est forain parce que... Parce que, si vous voulez, on a pas d'autres possibilités, parce qu'on dépanne le matériel, on va dire, comme de jour, comme de nuit. Le samedi et le dimanche, c'est les dates d'exploitation. Donc, il faut qu'on sache tout faire, quoi. C'est ça.
Vous arrivez, vous, quand même, avec une idée bien précise. C'est que vous voulez aller chercher les meilleurs artisans pour les faire fabriquer vos manèges. Et vous voulez que tout soit fait en France. J'ai regardé, vos torsades, elles viennent du Mans. Vous trouvez un peintre spécialisé ici en région parisienne.
À Beauvais,
c'était important.
Oui, c'est important, si vous voulez, parce que bon, bah déjà, il y a parlé de la langue. Donc, on parle français, mais on ne parle pas anglais, on ne parle pas italien, on ne parle pas espagnol. Et puis, il y a aussi cette facilité d'avoir cette connaissance, on va dire, le savoir-faire français, que moi, bon, j'aime mon pays. Et il y a cette spécificité qu'il y a avec les peintres, avec tous ces artisans, serruriers, les gens qui travaillent le bois, les menuisiers, tout ça. Donc, on a en plus cette chance d'être originaire du Jura et avoir, on va dire, une terre très artisanale. Il y a encore des gens, on va dire, qui fabriquent encore pas mal de choses avec leurs mains. Et on est très fiers, donc c'est aussi valoriser le carrousel avec tous ces matériaux.
Ça vous fait rêver, Jean-Christophe ?
Ben forcément, on a tous été des petits garçons ou des petites filles sur des manèges. Là, ça nous touche, ce que vous dites. Et je me dis, mais aujourd'hui, par exemple, en France, il y a combien de manèges qui fonctionnent ?
Combien de carrousels ?
On le sait, combien de carrousels, voilà.
Alors, il y a beaucoup d'entreprises, on va dire, en Europe. Même les Chinois sont mis à fabriquer des carrousels. Alors, malheureusement, je ne suis pas là pour critiquer, mais c'est vrai que ça reste du Made in China, quand même, parce que c'est des manèges qui sont longs en montage et puis qui sont conçus avec du matériau, on va dire, pas très artisanal. Mais des manèges qui tournent en carrousel en France, on est quand même maintenant nombreux, parce qu'il y a une certaine concurrence. Il y avait une forte demande dans les années 80, donc beaucoup de constructeurs au niveau européen qui sont mis en fabriquer, mais des carrousels, on va dire artisanales, il y en a, allez, on va dire, j'ai pas une trentaine, pas plus.
Mais vous avez commencé à faire des carrousels à thème.
À thème, oui.
Vous avez fait le Gustave Eiffel, le Molière, le Sissi Impératrice.
Voilà, parce que il fallait thématiser, on va dire, pour donner un petit clin d'œil. Et puis, étant originaire du Jura, on a des grands personnages célèbres, dont Victor Hugo, qui est né à Besançon, les Frères Lumière également, Roger de Lille, qui est né à Lons-Saunier. Sissi, c'est une romance, on va dire. Qui sait qui n'est pas fan de Sissi ? Des hommes comme des femmes, ça a marqué notre enfance. Et donc, le dernier, c'est le Carrousel Molière. C'est un petit clin d'œil au théâtre, parce que le théâtre a commencé sous la fête foraine, le cinéma aussi, on a la première projection, les théâtres de rue. Donc, c'est un petit clin d'œil aussi pour rappeler que le théâtre est proche aussi du monde forain.
Et vous les louez désormais, hein. Vous avez développé un autre service, vous les déplacez sur les événements, ça c'est...
Voilà, c'est ça.
C'est plus fixe dans une commune.
Voilà, moi mon but c'est forcément valoriser un produit et se faire plaisir parce qu'encore il y a un mois, on a tourné un spot publicitaire à Berlin pour une grande marque de luxe qui va passer sur les écrans de parfum. Donc c'est un couple qui s'embrasse sur le carrousel, c'est la romance. Donc on est amené à la dernière minute des fois à se déplacer très loin.
Maud,
ces carrousels, on ne les trouve qu'en France ou justement vous allez vous mettre à l'italien et à l'anglais pour les envoyer un peu à l'étranger ?
Alors j'ai la chance d'avoir, j'ai deux enfants, j'ai une fille qui a 24 ans et une autre qui a 16 ans. Et j'espère qu'ils sauront parler plusieurs langues parce que c'est un petit peu l'avenir aussi, l'ouverture des frontières. Mais on a été travailler bien sûr en Italie, en Espagne, mais on a forcément des gens qui communiquent un petit peu à notre place. Bon, puis c'est vrai que la barrière de la langue n'est pas forcément une grosse barrière dans le travail.
Et on entend cette musique qui nous accompagne depuis notre enfance, grâce à vos carrousels. Merci beaucoup d'être venu.
Merci à vous.
Nous ramener en enfance un petit moment. Merci d'être venu sur Europe 1. Merci à Jean-Christophe Sibéras qui était notre coach aujourd'hui. Maud, merci d'avoir été avec nous toute
merci
cette semaine dans La France Bouge. Merci à Justine. Je vous dis à lundi midi sur Europe 1.